Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Ben van de streets, ik moest overleven om te leven, het is alles of niets. Ik ben actief, ik ben op winst die steeds, nee ik denk niet aan verlies.
Och dit daar bat, joh dit daar aila, Pablo Chapo, wat een loco, tabaskais toch plakje, demia, euro, derhem, narco, coco. Ben van de
streets. Bonjour, l'Europe mise au défi pour contrôler de nouveaux trafics de drogue. Alors que le marché américain est saturé, la cocaïne a opéré un rebond majeur sur le continent. L'exportation et la consommation n'ont jamais atteint de telles proportions. Le port d'Anvers, en Belgique, est devenu un centre de transit. 110 tonnes de poudre blanche ont été interceptées par les forces de police l'an dernier. Et les trafiquants redoublent d'imagination pour faire passer la marchandise. C'est le reportage sur place de Laure Broulard.
Sur les quais, les conteneurs et les camions défilent sans arrêt. Avec ses 129 km² de superficie, le port d'Anvers est le plus grand d'Europe. Il est particulièrement intéressant pour les narcotrafiquants car il est relativement ouvert et qu'il est proche des Pays-Bas où sont implantés d'importants réseaux criminels. La drogue y arrive le plus souvent d'Amérique latine dans des conteneurs de fruits. Florence Angelici, porte-parole des douanes belges.
C'est intéressant parce que les lignes sont existantes et qu'en plus les fruits, on ne peut pas les bloquer de façon indéterminée, sinon évidemment ça risque de pourrir. Ils vont aussi utiliser des troncs qui avaient été creusés dans lesquels on a retrouvé de la cocaïne. On va utiliser par exemple de la cocaïne liquide qui va être injectée dans les vêtements. Donc il y a beaucoup d'ingéniosité.
Et les volumes saisis par les douanes sont en constante augmentation depuis 10 ans. Un phénomène attribué à la hausse de la demande ainsi qu'à l'introduction de nouvelles techniques de production en Amérique du Sud.
Les trafiquants ont modifié génétiquement les plants de coca. Et donc il y a plus de récoltes et donc plus de drogue. L'Europe est un marché très intéressant parce que c'est très étendu et que c'est facile de circuler. Mais il y a un vrai souci en termes de consommation qui est en nette croissance en Europe.
Une fois arrivée à Anvers, la quasi-totalité de la cocaïne file directement vers les Pays-Bas avant d'être dispatchée dans le reste de l'Europe. Derrière ce trafic, la Mokro Mafia, une organisation néerlandaise d'origine marocaine qui a la main sur une grosse partie du marché de la cocaïne et qui n'hésite pas à recourir à la violence. Ton Vuitton est anthropologue. Il a écrit un rapport sur les réseaux criminels liés à la drogue pour la ville d'Anvers.
On a eu les dernières années beaucoup d'incidents de violence, beaucoup de tirages avec des pistoles et des kalachnikovs et beaucoup d'explosions de grenades. C'est une stratégie pour intimider les autres. Hollande, la violence est plus dure.
Il y a 2 mois, la drogue a fait une première victime à Anvers. Une fillette de 11 ans a été tuée au cours d'un règlement de compte entre bandes rivales. Depuis, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour lutter contre les narcotrafiquants. Un renforcement des effectifs policiers à Anvers, des amendes relevées pour les consommateurs de cocaïne et surtout une nouvelle commissaire nationale aux drogues chargée de coordonner la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants.
Mokro mafia. درجة لي عرفها من صغير ما عمرك غتشوفني غادي لارون تخيني انصامبل نيتي دي بجي ونستابي دي ديليغ جسكا.
Le trafic de drogue et son lot de violence aux Pays-Bas. 3 personnalités, un repenti, un avocat et un journaliste, ont été abattus entre 2018 et 2021 par ce qu'on appelle la Mokro-mafia. En Belgique, cette violence a touché de très près le pouvoir, avec une tentative d'enlèvement du ministre de la Justice. Certains parlent de narco-terreur, voire de narco-État. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
Tirs à l'arme à feu, bâtiments incendiés, attaques au couteau, lancers de grenades. Dans certains quartiers d'Anvers, le quotidien est pourri par les activités criminelles. Il y a même eu un drame en janvier dernier.
Une fillette de 11 ans tuée hier à Anvers. Les balles d'une arme de guerre ont transpercé la façade de sa maison. Son père et ses 2 sœurs ont été blessés.
L'argent brassé par la cocaïne a de quoi déstabiliser l'État belge. Ce business est estimé à plus de 30 milliards d'euros chaque année. Le journal Le Monde note que c'est plus de la moitié du budget annuel des retraites pour le pays. Le procureur fédéral, Frédéric Van Leu, est inquiet. Selon lui, l'opinion publique ne prend pas la mesure du problème.
Il faut faire très très attention On vit une espèce de traumatisme collectif quand on est victime du terrorisme et quand c'est la criminalité organisée, on n'a pas ce sentiment-là. Or, il faut savoir que chez nous, en tout cas, la criminalité organisée est nettement plus systémique que le terrorisme, parce qu'il y a des sommes gigantesques qui sont blanchies et réinvesties dans notre économie, et que si on laisse aller ça trop loin, à un certain moment, ça va faire très mal, y compris à des gens qui n'ont rien à voir.
L'État belge a tardé à réagir de l'avis des magistrats. Mais l'enquête Sky ICC, en mars 2021, a fait bouger les choses.
Dès 5h du matin ce mardi, plus de 1500 officiers de police se sont déployés de manière simultanée dans tout le pays pour une opération inédite. L'objectif, porter un coup dur au monde de la criminalité organisée, en ciblant particulièrement l'une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants en Belgique, le port d'Anvers.
Sky ICC, c'est un système de communication crypté utilisé par les trafiquants. Les enquêteurs sont parvenus à lire plus de 500 millions de messages et ont lancé la plus grande opération jamais faite en Belgique, avec une coopération internationale. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées. Frédéric Van Leu y voit la preuve que la Belgique n'est pas un narco-État, parce qu'elle parvient à réagir. L'État n'est pas gangréné et il n'y a pas de territoire hors contrôle. N'empêche que rien n'est encore réglé. La Belgique est un hub logistique au centre de l'Europe, un avantage pour les trafics. Et la présence d'une grosse industrie pharmaceutique favorise aussi les savoir-faire, par exemple pour produire des drogues de synthèse ou extraire la cocaïne quand elle est cachée dans du jus de fruits ou du plastique. L'enquête Sky ICC a révélé que la police, la douane, les entreprises, notamment dans l'immobilier, sont infiltrées par les trafiquants. Une corruption massive contre laquelle le combat est loin d'être gagné. Frédéric Van Leu.
Il y a la corruption, l'appât du gain, parce que quand on vous propose 50 000 euros pour déplacer un conteneur, ça tente, hein, c'est des sommes qu'on a entendues, mais il y a aussi la corruption forcée quelque part, parce que justement on menace votre famille, parce qu'on vous envoie une photo de votre épouse ou votre enfant à la sortie de l'école.
Cette vaste enquête a dérangé le milieu de la drogue, d'autant qu'il y a aussi en ce moment le procès géant de la Mokromafia à Amsterdam. Sauf que les trafiquants réagissent et menacent des personnalités publiques.
Vous êtes également engagé avec le gouvernement et vous comme ministre de la Justice dans la lutte contre la drogue, Vincent Van Quickenborne.
Le ministre belge, Vincent Van Quickenborne, a promis de saisir les mafias à la gorge. Il a dû être mis à l'abri avec sa famille, car les menaces d'enlèvement ont été très loin.
Plusieurs suspects ont été interpellés aux Pays-Bas. Une voiture a aussi été découverte à proximité du domicile du ministre, avec à l'intérieur des armes et des colsons qui auraient pu servir dans le cadre d'un kidnapping.
Les colsons, ce sont ces liens en plastique qui servent de menottes. Aux Pays-Bas, c'est la princesse héritière Amalia qui fait l'objet d'une protection rapprochée. Dorénavant, elle ne sort que pour aller à l'université. La preuve que si la Belgique et les Pays-Bas ne sont pas des narco-États, ils sont quand même très déstabilisés par la puissance de frappe de ces réseaux criminels.
Comment lutter contre la mafia et l'argent de la drogue? En s'attaquant non pas seulement aux personnes, mais au cœur de son business, à ses revenus, à ses biens. En Italie, l'État et la justice ont compris depuis bien longtemps que l'argent de la drogue était réinvesti très tôt dans l'économie légale, y compris l'économie verte. Et l'arrestation en janvier dernier du dernier grand parrain de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, n'a fait que confirmer ses réseaux tentaculaires. Les explication depuis Palerme de Cécile Debarge.
C'est un feuilleton auquel chaque semaine amène de nouveaux rebondissements. Depuis l'arrestation à la mi-janvier de Matteo Messina Denaro, les enquêteurs traquent les secrets de 30 ans de cavale. Selon les estimations du quotidien économique Il Sole 24 Ore, le patrimoine de Matteo Messina Denaro avoisinerait les 4 milliards d'euros. Un chiffre faramineux qui ne doit pas faire oublier que le système mafieux ne s'arrête pas à un seul homme. Carmelo Polichino fait partie de la branche palermitaine de Libera, un consortium d'associations qui sensibilise la société civile au phénomène mafieux.
Les mafias ne dépendent jamais d'une seule personne, elles sont systémiques. D'ailleurs, on parle de système mafieux. C'est contre ce système que l'on doit lutter, donc contre un système politique, affairiste, mafieux, qui permet surtout de réussir à créer un système économique et politique parallèle, qui permet l'enrichissement de certains, mais surtout qui leur permet de maintenir leur pouvoir.
En Italie, la législation permet depuis 1991 de confisquer les biens des mafieux. Dans la partie occidentale de la Sicile et en particulier à Castelvetrano, fief historique de Matteo Messina Denaro, cette disposition a permis le démantèlement d'une partie de l'empire économique des proches du parrain de Cosa Nostra, rappelle le vice-président de la commission antimafia de la région Sicile, Ismaele Lavardera.
À Castelvetrano, ces dernières années et ces dernières décennies, il faut reconnaître que les confiscations de biens ont été très nombreuses, à hauteur de plusieurs millions d'euros, et elles ont montré que l'État a fait son travail pour retirer à Cosa Nostra une partie de ses possibilités économiques.
Mais ces possibilités économiques sont tellement tentaculaires que c'est du côté de l'économie légale que tous les regards se portent désormais. Dans son étude publiée en décembre 2021 sur la criminalité organisée, la Banque d'Italie estime que les activités illégales de la mafia représentent près de 2% du PIB italien. Dans le cas de Matteo Messina Denaro, les enquêteurs ont découvert des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans l'éolien. Si les sommes investies sont énormes, les résultats sont souvent moindres et cela devrait susciter la méfiance, analyse Carmelo Polichino.
C'est normal, non ?
C'est normal qu'il y ait ces investissements massifs sur les énergies renouvelables, par exemple. Et personne ne se demande pourquoi, ensuite, ces investissements ne débouchent pas sur une vraie production d'énergie.
Marco Bova est journaliste indépendant, originaire de la province de Trapani, cette partie de Sicile occidentale, où les investissements de Matteo Messina Denaro sont colossaux. Depuis 2013, il enquête sur la traque de celui qui était considéré comme le dernier parrain de Cosa Nostra.
Avec les énergies renouvelables, il ne faut pas imaginer la mafia qui investit dans les énergies renouvelables tout court. Par exemple, l'un des personnages clés identifiés dans cette enquête, c'est Vito Di Castri, dont le métier est d'être développeur énergétique. Dans la plupart des cas, il ne faisait rien d'autre que d'être dans la région l'intermédiaire entre de très grands groupes internationaux et les réalités locales.
Les investigations financières se heurtent à des difficultés qui vont bien au-delà des frontières nationales, explique Marco Bova.
Les plus grands ennemis de la lutte contre la mafia sont les paradis fiscaux et le secret bancaire.
Car la mafia d'aujourd'hui fonctionne non seulement comme une impressionnante machine à recycler l'argent sale, mais surtout comme une multinationale dont les ramifications s'étendent dans le monde entier. Marco Bova.
Ce patrimoine de connaissances, ces informations se trouvent entre les mains d'une toute petite armée de commerciaux qui connaissent des codes alphanumériques, qui gèrent des comptes courants sur lesquels se trouvent les secrets de Cosa Nostra. Ça, c'est le dernier mystère de la mafia sicilienne et les autorités judiciaires et les enquêteurs en sont encore bien loin.
Ce système permet aux mafias de disposer d'énormes liquidités et de capacités d'investissement très réactives. Une réalité d'autant plus préoccupante que l'Italie investit actuellement un peu plus de 200 milliards d'euros dans le plan de relance nationale post-pandémie de Covid-19.
Couper l'herbe sous le pied des trafiquants en légalisant le cannabis. C'est une stratégie à laquelle réfléchissent plusieurs États européens, dont l'Allemagne. Le nouveau texte législatif devra faire l'objet d'une validation par les instances européennes, mais il suscite déjà beaucoup de débats et d'appétits commerciaux, notamment dans les entreprises qui produisent du cannabis médical. C'est le reportage en Allemagne de Salomé Hénon-Cohen.
C'est au fin fond de la Saxe, à environ 20 km de la ville de Dresde, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qu'est implantée Demecan, une entreprise de cannabis thérapeutique. En fonction du vent, on sent même le cannabis à des kilomètres à la ronde. Les locaux pour accueillir le cannabis légal sont déjà prêts, comme l'explique Gabriel Nott, responsable des cultures.
Ici, c'est la pièce qui accueillera le futur cannabis. Le gros œuvre est déjà prêt. Dès que la légalisation sera effective, il nous faudra peut-être encore un mois pour que ce soit terminé. Et ensuite, nous pourrons produire jusqu'à 10 tonnes par an sur ce site.
Et de nouvelles plantes sont aussi en phase de développement. L'entreprise se prépare au cas où la consommation récréative de cannabis serait finalement autorisée dans le pays. Demecan produit du cannabis thérapeutique depuis 2021. 10 tonnes par an, pour être précis. L'entreprise, située sur la commune de Ebersbach, en Saxe, emploie une centaine de personnes. une offre d'emploi très bien accueillie dans cette région rurale. Les locaux où pousse désormais le cannabis étaient vides depuis une dizaine d'années. Avant, ils accueillaient le plus grand abattoir d'Europe. Visiter le site, c'est comme visiter un site de production de médicaments. Les règles sont nombreuses. Gants, masques chirurgicaux, combinaisons blanches, charlotte sur les cheveux, tout est fait pour protéger la précieuse plante de toute contamination.
Cela prend 12 semaines. De la graine à la récolte, il faut 12 semaines à un plant de cannabis pour se développer.
Dans cette grande pièce d'une centaine de mètres carrés, 600 plantes poussent. On se croirait dans la jungle et pour cause. Il fait chaud, environ 25 degrés. Et très humide.
Ici, on sent déjà l'odeur du cannabis, c'est la variété orange velvet. Ça sent un peu l'orange, un peu l'agrume. Ça vient des fleurs, on récolte les tiges des fleurs, on enlève les feuilles qui les entourent, on les fait sécher. Cela dure une à deux semaines. Ensuite, il est analysé, mis en boîte et étiqueté. Puis, il est livré à notre client, le gouvernement fédéral, qui le distribue ensuite aux pharmacies.
Demecan ne produit aujourd'hui que pour le marché thérapeutique. Seules 3 entreprises en Allemagne ont obtenu l'agrément du gouvernement. D'ici la fin mars, elle et ses concurrents en sauront plus sur leur sort, quand le gouvernement allemand aura publié le texte de loi. La machine législative se mettra en marche, avec un premier arrêt à Bruxelles. La Commission européenne dira alors si l'Allemagne peut dépénaliser ou légaliser la consommation récréative de cannabis. La dépénalisation consisterait à supprimer les sanctions pénales en place aujourd'hui. La légalisation irait encore plus loin. Elle rendrait légale la consommation, la vente et le transport de cannabis. Dirk Heidenblut est député au Bundestag, issu des rangs du parti SPD d'Olaf Scholz. Depuis des années, il se bat pour rendre le cannabis légal en Allemagne.
Je suis sûr que la dépénalisation, ce que nous voyons dans d'autres pays européens comme Malte, pourra être effective au cours de cette législature. J'ai également bon espoir que nous parvenions aussi à la légalisation. Mais pour cela, nous devons réussir à convaincre les autres pays européens de l'intérêt de notre loi. Ce n'est pas une décision que l'Allemagne peut prendre seule. Dans de nombreux pays, l'idée est que la protection de la santé doit primer sur le droit pénal, mais rien n'est joué.
Une fois la question européenne réglée, le texte arrivera au Bundestag et sera voté avant la fin du mandat de Scholz. C'est du moins ce qu'espère aussi bien le député que l'entreprise Demecan. Cette décision serait avant tout prise pour encadrer la consommation et réduire le marché noir.
Nous savons que l'accès au cannabis, lorsqu'il passe par des dealers, s'accompagne de la vente d'autres stupéfiants. Nous savons aussi qu'il est proposé aux jeunes et que leur protection n'est pas du tout respectée. En quoi cela peut-il intéresser un dealer ?
Aujourd'hui, entre 1 et 3 millions de personnes consomment régulièrement du cannabis en Allemagne. Cela monte à 5 millions lorsqu'on ajoute les consommateurs occasionnels.
Le prix doit être fixé de manière à ce qu'il ne soit pas trop élevé pour que les gens ne se tournent pas vers le marché noir pour économiser de l'argent. Par contre, il ne doit pas être trop bas non plus, sinon le marché noir se sert sur le marché légal et le vend ensuite à l'étranger, par exemple. D'instinct, je dirais 10 euros pour un gramme. Je pense que tout le monde serait prêt à payer ça.
Aussi bien du côté du gouvernement que de celui des producteurs, on répète qu'il sera plus facile d'alerter et d'informer sur les dangers du cannabis une fois qu'il sera légal. Cependant, les détracteurs du projet sont nombreux, notamment dans les rangs du parti conservateur CDU, dans l'opposition au Parlement. L'AFD, le parti d'extrême droite, se dit également contre la légalisation. Par ailleurs, au niveau mondial, des questions se posent. L'organe international de contrôle des stupéfiants déplore par exemple que la vente libre entraîne une baisse de la perception du risque. Il montre notamment que dans le Colorado, aux États-Unis, un état où le cannabis est légal, il y a eu 2 fois plus d'accidents de la route mortels entre 2013 et 2020, avec des conducteurs sous l'emprise de cannabis. Enfin, une enquête du journal Der Spiegel a fait grand bruit en Allemagne en octobre 2021. Elle montrait qu'aux Pays-Bas, pays pionnier dans la légalisation, la mafia et les narcotrafiquants menaçaient aussi bien les politiques, les magistrats que les journalistes.
Accent d'Europe était réalisé cette semaine par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.